grand jury de la presse immobilière. Une émission en partenariat avec Régus et bien ici sur Radio Immo.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, plutôt bonsoir à toutes et à tous. Je suppose que vous êtes écrasés par la chaleur. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais c'est l'été. Voilà, on a quand même un peu de chaleur qui arrive dans les villes. Merci en tout cas d'être connectés sur Radio Immo pour ce dernier numéro du grand jury de la presse immobilière pour l'édition 2024. Mais rassurez-vous, nous serons avec vous à partir de septembre après une pause estivale. Voilà, toujours entouré de nos journalistes pour ce numéro du grand jury. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau notre ami Bruno Monnier-Vinard. Bon, salut Bruno.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous.
Voilà, journaliste célébrissime, spécialiste de l'immobilier au journal Le Point. Merci Bruno. Le dossier du 6 juin a été brillant. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Merci en tout cas d'être avec nous. Voilà, une plume acerbe de l'immobilier avec un point de vue particulier. On a toujours beaucoup de plaisir à l'accueillir sur le plateau. Elle a d'ailleurs commis un livre récemment. Voilà, Halte à la spéculation sur le logement, avec des idées bien trempées. Elle a été journaliste au Monde pendant longtemps, grande spécialiste du logement. Isabelle Rey-Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va Isabelle ?
Très bien.
Je suis ravi de vous voir justement avant cette pause estivale. Notre productrice préférée, journaliste et animatrice, Charlotte Eckerl pour Radio Immo.
Bonsoir Sylvain.
Comment ça va Charlotte ?
Très bien.
Voilà, mieux ce serait de la gourmandise.
Exactement.
Voilà, on va rester résolument optimiste, voilà, dans un contexte, on va dire légèrement, chahuté. Il nous fait la météo chaque mois avec des données très précises sur le logement et sur l'immobilier à l'échelle du quartier, des rues, des départements et des villes. C'est notre ami Régis Sébille. Comment ça va Régis ?
Très bien Sylvain, bonsoir.
Voilà, spécialiste des données, bon, bien ici. Merci d'être avec nous. Et je vous l'avais dit, on devait finir cette saison avec un grand témoin, une grande dame de l'immobilier est avec nous. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on la reçoit. C'est Anne-Sophie Grabe. Bonsoir Anne-Sophie.
Bonsoir Sylvain.
Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes présidente du directoire de CDC Habitat. Merci de vous prêter au jeu des questions des journalistes pour ce grand numéro de la presse. Alors comme vous le savez les amis, on commence toujours pour prendre la météo. Il fait très chaud dehors, fait-il très chaud dans l'immobilier? On ne sait pas, c'est ce qu'on va découvrir avec la météo tout de suite après ça.
La météo de l'immo. Par bien ici.
Mon cher Régis, voilà, cette semaine, vous allez profiter de la sortie justement de votre baromètre, bien Statici, hein, donc, oui. Que vous avez pondu, qui est un recueil de données collectées sur votre site, hein, sur bienici.com, et vous allez nous faire un point de situation sur le marché, un focus notamment sur le marché de la location, et Dieu sait qu'il y a beaucoup à dire.
Exactement, un peu comme la météo qui revient. On a ces sujets de l'immobilier et des chiffres et ce numéro de Statici qui est publié sur la location ce mois-ci avec beaucoup de données également sur l'ensemble du marché et la transaction. Donc on s'était quitté le mois dernier sur des premiers signaux favorables, en tout cas positifs sur le marché de l'immobilier. Voilà, ce soir dans cette météo, on va voir un petit peu comment ça se passe en ce deuxième trimestre qui vient d'être fini et ce premier semestre 2024.
Alors ça se présente plutôt bien. Où est-ce qu'on en est, je veux dire, globalement, si on devait prendre une photographie à date?
Alors, on parlait de bons signaux tout à l'heure sur le marché de la transaction pour commencer. Le premier chiffre, ça va être une baisse de l'offre de l'ordre de 6% au deuxième trimestre par rapport à 2024. Ce chiffre, en fait, il est surtout visible sur les appartements parce que l'offre de maisons continue à progresser sur l'année. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'on va avoir deux situations entre les appartements et les maisons, avec d'un côté les appartements qui voient leur offre baisser. On se souvient en début d'année, les premières tendances de baisse de taux de crédit, on était sur une tendance à la baisse des prix depuis à peu près 18 mois, et du coup là on voit cette baisse de l'offre, une baisse de l'offre d'annonces diffusées, ça veut aussi dire des biens qui ne sont plus sur le marché, potentiellement des transactions qui se sont faites. Donc c'est un bon signal.
Donc ça serait quoi? Un indicateur peut-être léger de reprise du
marché?
Alors
un indicateur léger, il faut toujours le pondérer par rapport au temps et à l'attentisme des Français et des acquéreurs, parce que c'est un peu moins facile d'acheter aujourd'hui qu'il y a 3-4 ans, et on a ce temps de diffusion des annonces qui reste, lui, supérieur d'à peu près 21 jours par rapport à l'année dernière, soit 3 semaines de plus pour vendre son bien.
Ce chiffre-là, d'ailleurs, du délai, n'a pas bougé.
Non, le délai, ouais. Si, il a bougé. Il a augmenté de 3 semaines en un an.
Ah oui.
Donc 3 semaines de plus pour vendre un bien ou pour en tout cas, arriver à la décision de l'acheter.
Alors, on le sait, hein, la situation du logement et de la location est une catastrophe nationale, notamment pour les étudiants, mais aussi pour les jeunes actifs. Et les indicateurs de reprise sur le marché de location ne sont pas très bons. Qu'en est-il, Régis ?
Alors, j'ai envie de dire deux salles, deux ambiances. On va avoir d'un côté la transaction où là, on est avec des acquéreurs qui attendent le bon moment pour agir. Et de l'autre côté, la location, où on va avoir des demandeurs qui sont sur les starting blocks. Voilà, on est à l'approche des JO. C'est une belle image, prêt sur le départ, quitte à faire un faux départ aussi pour aller très très vite. On va avoir une situation où la demande, elle continue d'augmenter et l'offre disponible, eh bien, elle n'est pas à niveau. On a une tension. L'indicateur clé, c'est la tension, le volume de demande qui est faite par rapport à l'offre disponible, qui augmente encore de plus 18% par rapport à l'année dernière, juste à l'approche de l'été, sur les petites surfaces, donc les logements les plus demandés. Et on va avoir un autre indicateur qui révèle un petit peu cette situation sur le marché, qui se traduit du côté des loyers, avec une augmentation nationale de l'ordre de 1,3% sur l'année. On va dire 1,3, c'est pas énorme. Si on regarde sur le loyer médian dans les grandes villes, on est sur du plus 9% à Paris, du plus 8% à Marseille, même du plus 7% à Lyon. Donc on va avoir ce loyer médian qui a tendance à augmenter du fait de cette tension de marché. Je relativise juste sur la location le loyer, pour ne pas dire que c'est un effet indirect pour profiter de la pénurie d'offres. C'est aussi un effet qui joue sur l'offre disponible, à savoir que forcément, les biens les moins chers partent encore plus vite.
Et bien sûr. Et la tension, elle ne peut que s'accroître, parce qu'effectivement, la fourniture d'offres de location, elle peine à reprendre des couleurs par rapport à la demande, parce que la demande augmente, mais l'offre de location, elle aurait plutôt tendance à réduire.
Alors clairement, si on veut un exemple un peu d'actualité pour résumer la situation sur le marché locatif, on va avoir des jeunes actifs qui sont des jeunes diplômés en fait, qui viennent de finir leurs études, qui vont rentrer dans la vie active et qui gardent leur logement étudiant aujourd'hui, faute de ne pouvoir trouver un autre logement.
Ah carrément.
Ce qui fait que les nouveaux arrivants pour la rentrée prochaine, ils ne retrouvent pas de place et ne peuvent pas louer. Voilà, oui. Ce turnover ne se fait pas. En fait, s'il ne se fait pas déjà sur les petits logements studios, il ne se fait pas après pour les jeunes actifs, etc. Un blocage qui est déjà vu au niveau de la primo-accession, où on sait que passer le T3, par exemple, ou à un moment de vie, on arrive sur le démarrage de l'achat et on remet de la place et on remet un petit peu de dynamisme dans le moteur.
C'était d'ailleurs l'an dernier, je me rappelle, en septembre 2023, on était à 12% des étudiants qui avaient renoncé à leurs écoles et à leurs études, à leurs projets pédagogiques, faute de logement. Oui. Et sur les contrats à durée indéterminée qui n'ont pas été signés dans les grandes agglomérations, c'était 17%. Et a priori, ce chiffre devrait s'aggraver en septembre 2024.
C'est en tout cas les tendances.
Oui, à l'époque, on était à moins 49% d'offres de location à date, quasiment. Et le chiffre ne s'inverse pas. À voir avec beaucoup, beaucoup de vigilance. Malheureusement, ce sera les étudiants qui vont être un peu les dindons de la farce. Et comme on ne sait pas réellement ce qui va se passer sur le plan politique, ça va que compliquer les choses, n'est-ce pas ? Alors, marché donc paralysé, contexte politique, on peut le dire, très incertain, qui n'arrange pas les choses, en tout cas qui ne restaure pas la confiance. On va essayer d'être un peu positif. Est-ce qu'on a des solutions ?
Alors, la solution, elle est amenée à se débloquer. On ne peut pas rester dans une situation telle quelle. La question qu'on se pose, c'est surtout quand et comment. Parce que, vous l'avez dit, il y a le contexte politique actuel qui n'est pas favorable au déblocage. On va avoir d'un côté l'incertitude qui va être créée pour se lancer dans des projets d'achat ou d'investissement. Et de l'autre côté, on a une question du logement au global qui n'est pas prise en compte au niveau politique. On a identifié les causes, on en a déjà parlé. On a un blocage sur la primo-accession qui ralentit le système un peu locatif, en tout cas sa rotation. On a aussi des questions de manque de logement, sachant que à l'inverse, on va avoir peu de construction de nouveaux logements. Tout ça, on sait identifier les causes et on peut dès lors envisager des solutions. Dans les solutions, il faut surtout penser à repenser, si je puis dire, l'offre avec des logements qui seraient plus adaptés, à savoir aux besoins, au budget et aux étapes de vie. Et tout ça, je pense que c'est des sujets qui seront Bien vu ce soir.
Absolument développé. Mais c'est un sujet. Alors c'est intéressant parce qu'on en parlera tout à l'heure parce qu'on peut pas ne pas faire un peu de politique sur l'analyse de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais qu'on a remarqué quand même que la place du logement avait pris une part un peu plus développée dans les échanges politiques, dans les différents débats. C'est un petit peu, alors je vais pas dire la bonne nouvelle, mais voilà, le logement a été un peu mieux pris en compte dans l'échange des débats qui se sont...
Si ça arrive au niveau de la part du budget des ménages, ce sera déjà pas mal.
Voilà. Bon, ça nous donne un bon contexte de débat pour ce dernier numéro. On va retrouver tout de suite la revue du grand jury.
Le grand jury de la presse immobilière. La revue du grand jury.
Alors, ma chère Anne-Sophie, chaque mois, on demande aux journalistes, vous savez, leur coup de blues ou leur coup de cœur. D'ailleurs, si vous avez un coup de blues ou un coup de cœur, vous pouvez y aller aussi dans la revue du Grand Jury. Et on demande un petit peu... Alors, ça peut être aussi de très, très belles initiatives. D'ailleurs, je crois qu'il y a une initiative qui va vous concerner, qui va être présentée par notre ami Bruno, par lequel, d'ailleurs, je vais commencer. Voilà, coup de blues, coup de cœur, ce mois-ci.
Alors, très rapidement, coup de gueule... La politique du logement comme une girouette en France, avec alors là les dernières nouveautés, c'est l'extension de plus de 600 communes éligibles au PTZ, mais aussi à l'encadrement des loyers. Après le changement de mode de calcul du DPE pour les petites surfaces, qu'est-ce qu'on a de plus aujourd'hui? Oui, ben voilà, on augmente le seuil de MaPrimeRénov pour que davantage de ménages puissent faire des rénovations globales. Enfin bon, ça change tout le temps. Et je ne parlerai pas d'autres choses qui sont encore beaucoup plus complexes où il faut un comptable et un avocat pour s'y retrouver, notamment pour les bailleurs locatifs. Ça, c'est pour mon coup de gueule. Le coup de cœur, alors je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Les JO, je vais parler de la piscine olympique de Saint-Denis.
Je crois qu'on a quelques images d'ailleurs.
La piscine olympique de Saint-Denis qu'on voit apparaître. Alors elle se trouve juste en face du Stade de France. Mais je vais parler aussi du village olympique, du village des athlètes, qui lui est à la couture entre la ville de Saint-Denis et Saint-Ouen, face à la cité du cinéma de Luc Besson. Pourquoi j'ai pris ces deux exemples? Parce que bon, il y a des effets d'aubaine grâce aux JO, mais aussi ce sont des démonstrateurs de la façon de construire la ville de demain, la ville durable de demain. Et c'est intéressant avec une architecture bioclimatique modulaire. Et vraiment du 21e siècle, dont les leviers sont principaux, c'est quoi? Là, il s'agit de deux créations ex nihilo, hein, donc il n'y avait rien avant. Les leviers de ces projets, c'est d'une part une sobriété constructive, hein, alors ça passe par l'utilisation massive du bois, en structure ou en bardage, mais aussi du béton bas carbone, le réemploi des matériaux, il y a de la terre excavée, des chantiers du Grand Paris, il y a du béton recyclé, la réutilisation des eaux usées, des formes plus compactes pour dépenser moins d'énergie, de la production d'énergie renouvelable. La piscine de Saint-Denis est un exemple, c'est la plus grande ferme solaire photovoltaïque de France.
C'est magnifique.
Là, on voit la charpente en bois de forme concave, qui est assez remarquable. Là aussi, c'est la plus grande charpente en France.
C'est à l'extérieur qu'on voit, donc, effectivement.
Voilà, et ça, on voit les brises soleil. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Et voilà, c'est ça, ce qui est intéressant aussi, c'est la modularité. C'est-à-dire que ce soit pour les bassins de cette piscine, qui, précisons-le, ne vont pas accueillir les compétitions de natation classique parce qu'il n'y a pas assez de tribunes pour accueillir tout le public, et ça se fera à l'aréna de Nanterre. Mais on peut diviser ces bassins en trois bassins. Il y aura un bassin pour les plongeons, pour la compétition de plongeon, un bassin pour la natation artistique et un bassin pour les matchs de water polo.
Oui, on le voit là.
Et ensuite, quand je parle de modularité, c'est qu'à l'issue des compétitions olympiques et paralympiques, on va réduire la jauge des tribunes de moitié et on va laisser ça va donner de la place pour faire d'autres équipements sportifs. Il y aura du paddle, mur d'escalade, etc. Et j'en viens au village des athlètes, dont je ne vais pas dire trop de choses parce que j'imagine que Madame Graff va nous en parler. Mais c'est donc une quarantaine de bâtiments, un très gros investissement, et qui vont accueillir 7000 chambres. dans un environnement où il y a avec des bâtiments qui sont assez compacts, pas trop hauts. Il y a 9000 arbres qui ont été plantés. Il y a plein d'idées très innovantes sur l'urbanisme. Je pense que Mme Graff va nous dire des choses dessus. Les avantages de ces deux projets, c'est quoi ? C'est pour la piscine, après les JO, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Ça va servir à piscine pour la Seine-Saint-Denis qui en manque beaucoup. Il faut savoir qu'aujourd'hui...
Ça va devenir une piscine municipale.
Voilà, tout à fait. Et il faut savoir qu'en Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, un enfant sur deux qui est en sixième ne sait pas nager. Donc, ça sera donc un équipement très, très structurant. Et pour ce qui concerne le village des athlètes, ça va être ensuite reconverti en logements familiaux, logements étudiants, bureaux, commerces.
Et ça a été pensé d'ailleurs pour justement la deuxième vie du bâtiment.
Voilà,
finalement, cet immeuble sera livré deux fois.
Il y a une histoire de double permis de construire.
Oui, vous pouvez, bien sûr.
Vous voulez que j'en revienne Oui, alors peut-être préciser que, puisque vous parliez de la chaleur qui revient, que ce village a été conçu aussi pour pouvoir vivre aux températures de 2050, avec sans climatisation intérieure et avec une température maximale de 26 degrés à l'intérieur des logements. Voilà, donc c'est très anticipateur. Ça s'inscrit, vous l'avez rappelé, complètement dans la stratégie nationale bas carbone. C'est aussi un premier démonstrateur en fait d'un quartier qui va être réversible. Enfin, les logements vont être réversibles. Vous avez donné le nombre de chambres. En réalité, ça va se transformer en un quartier de 2800 logements. Extrêmement bien desservi, parce que ça aussi, dans la démarche d'un quartier de ville, la façon dont on conçoit le bâtiment, les écomatériaux, tout ce que vous avez indiqué, mais il y a aussi l'accessibilité qui est très importante. Nous, en tant que CDC Habitat, en fait, on a acquis sur ce village, on était dans deux groupements, et puis on a aussi acheté des logements sur d'autres groupements, et donc on gérera à l'issue des JO, 1500 logements, et vous l'avez dit, alors il y a de l'accession privée, mais il y a aussi donc du logement, alors du locatif libre, de l'intermédiaire, du social, des résidences étudiantes, il y a une résidence aussi pour personnes, ayant un handicap, voilà, des résidences sociales, des commerces en pied d'immeuble, donc pour nous, en fait, on a un énorme enjeu sur la phase héritage pour faire en sorte que ce quartier vive bien, puisque on n'a jamais fait ça. Quand on travaille sur une ZAC, on livre progressivement des lots. Là, effectivement, on va voir arriver sur un quartier pour occuper 2800 logements. Ça va s'échelonner entre la mi-2025 et la fin 2025, puisque à la fin des JO, donc au mois de novembre 2024, Paris 2024 va remettre à nouveau le village à la Solideo et chaque groupement va en fait faire les travaux de réversibilité. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, dans les logements, vous avez des chambres, vous avez des salles de bain, mais vous n'avez pas de cuisine. Évidemment, il y a toutes les attentes. Mais donc il y a quand même un gros travail en fait de transformation. Et donc c'est le premier exemple à grande échelle en fait de réversibilité des logements.
Et vous l'avez fait d'ailleurs en un temps record. Je crois que ça a duré 5 ans.
Alors, c'est l'intérêt aussi, peut-être pour le débat de tout à l'heure, de dire, finalement, quand on veut, on peut. Mais ça veut dire aussi qu'il y a eu des textes spécifiques pour pouvoir, un permis à double état, on ne doit pas redéposer un permis, il y a des autorisations.
Il y avait le terrain.
Et il y avait alors qu'il était une friche industrielle, donc on est aussi sur une reconversion, finalement, ce qui est aussi intéressant par rapport à l'urbanisme de demain, puisqu'on sait qu'on va devoir, avec Lausanne, je pense qu'on en débattra aussi, concevoir nos quartiers un peu différemment. Donc c'est des délais extrêmement courts. On considère qu'on a fait en 7-8 ans ce que normalement on ferait en 15-20 ans.
C'est clair, c'est très clair. Merci toujours avec des très très belles images avec notre ami Bruno Bonnier-Binard. Isabelle, coup de cœur, coup de gueule, les deux ?
Les deux.
Alors, on commence par quoi ?
Le coup de gueule. Ce matin, l'Institut Paris Région a publié une étude sur le nombre de meublés de tourisme, sur Airbnb notamment, en Île-de-France. Et il y a une accélération, une explosion du nombre de durées. Il y en a 133 600 134 500 dans toute l'Île-de-France, c'est trois fois plus qu'en 2021. C'est-à-dire qu'en trois ans, ça a triplé. Avant, il y en avait 45 000 quelque chose. Et le prix de la nuit à Paris est passé d'à peu près, prix de la nuitée par personne, de 39 euros à près de 60 euros. Donc, explosion des prix. Et ce qui est intéressant aussi, ce qu'ils disent, c'est que c'est à 90% des logements entiers hein, qui sont en fait soustraits à la location privée, si j'ose dire, de longue durée. Et il y a à peu près 38% des annonces qui sont des gens qui ont plusieurs logements et dont 19%, c'est des annonces qui regroupent plus de 6 appartements. Donc, on est dans une professionnalisation de ce secteur, c'est plus l'économie de partage, etc., et qui tire vers le haut les prix, les loyers, et qui soustrait, vous en avez parlé, à la location longue durée, beaucoup de logements.
Et pas vraiment soumis au DPE non plus.
Non plus.
Et avec donc, une règle fiscale qui était inadéquate.
Et une règle fiscale.
Qui tente maintenant à essayer avec la loi, on parle aussi de la loi de la députée Anna Iglemer, qui avait travaillé sur le sujet.
Et alors, en fait, deux parlementaires, M. Brisson et M. Brossin, cet alignement, je dirais, de la fiscalité sur la fiscalité de la location nue avait été voté par la loi de finances pour 2024.
Absolument.
Un peu par inadvertance, par oubli. Et donc, ces deux parlementaires ont saisi le Conseil d'État qui a dit, oui, ça doit s'appliquer. Donc, en fait, par inadvertance, le régime fiscal des locaux meublés et touristiques s'aligne sur le régime fiscal des locaux...
Il était temps, non ?
Il était temps. Alors, on verra ce que ça donne. Coup de chapeau, alors puisque nous avons une grande dame du logement social qui a dirigé parmi les plus grands bailleurs sociaux européens, on peut dire, je voulais faire un petit coup de chapeau aux bailleurs sociaux franciliens qui ont mis en place une plateforme qui s'appelle Habiter Échanger et qui permet à leurs locataires d'échanger leur logement pour trouver ou plus grand, ou plus petit, ou moins cher, ou plus près de leur... De leur lieu de travail. Ce qui est intéressant, c'est que c'est interbailleur.
Il y a tous les bailleurs sociaux, justement. C'est
40 question. Bailleurs sociaux, alors franciliens, c'est 80% de l'offre. Et ça, alors ça a commencé en 2019, ça monte en puissance. Et cette année, il y a eu 650 ménages qui ont pu échanger leur logement. Et depuis le départ, donc depuis 2019, ça fait à peu près 3000 ménages. Ça met de la souplesse. Mmh. Bon, moi, je trouve que l'échange a un peu un côté moyenâgeux. On a inventé la monnaie pour éviter d'échanger des patates contre des carottes. Mais le fait que ce soit interbailleur, il démontre que dans 55% des cas, ils ont changé de bailleur. Donc, ça élargit quand même les possibles. Et donc, coup de chapeau à Habiter, échanger.
Vous en faites partie ?
Bien sûr. Alors CDC Habitat en fait partie. Et effectivement, parce que chez les bailleurs sociaux, souvent, ce qu'on n'arrive pas bien à traiter, justement, c'est les demandes de mutation. Voilà, la famille s'agrandit, je veux changer. Parce qu'on gère notre parc et on ne connaît pas, en fait, le parc du bailleur voisin. Et donc, par un système de plateforme numérique, hein, tout simplement, effectivement, ceux qui s'inscrivent peuvent se trouver, d'une certaine façon.
Voilà, il faut trouver
une personne âgée qui va vouloir quelque chose de plus petit en rez-de-chaussée, une famille qui s'agrandit. Voilà, ils peuvent échanger. Et après, effectivement, c'est repris, bien évidemment, puisqu'on respecte les règles du logement social. Donc, tout ça doit passer dans les commissions d'attribution de logement et de vérifier que tout est bien conforme par rapport à notre réglementation. Mais c'est un vrai plus, effectivement, je partage complètement. Ouais.
En tout cas, c'est une vraie innovation, on va dire, d'un point de vue social, puisque je trouve que l'idée est extrêmement intéressante, parce que ça crée finalement une solidarité. Il y en a qui veulent plus petit, qui veulent plus grand. Et ça crée justement ces liens interbailleurs et le fait qu'il y en ait 40 qui soient entrés dans ce dispositif, c'est un bon signe.
Oui, et puis le bailleur ne connaît pas forcément toujours dans le détail finalement la vie de la famille ou du ménage et ça permet de cette façon-là tout simplement par par l'intermédiaire d'une plateforme numérique, de pouvoir se trouver. Moi, j'avais en tête un exemple où c'était... nous, on n'aurait pas spontanément proposé, je dirais, une mutation, par exemple, sur un logement à Paris, sur une autre ville de région parisienne, parce qu'on s'était dit... Bon, a priori, la famille va absolument pas avoir envie d'aller dans cette commune. Mais en fait, on connaît pas peut-être qu'il y a... j'ai un exemple très concret d'un échange qui s'est fait comme cela, mais rapprochement travail-domicile, rapprochement d'une personne âgée de sa famille, et toutes ces données-là, nous, on a les compositions familiales, ça on les a, on a les ressources, mais tout ce qui fait, effectivement, qu'à un moment donné, on a besoin de bouger, et nous, en fait, on va un peu se mettre des barrières en disant, non, on peut pas proposer, la personne va refuser, et là, les personnes se trouvent... les binômes se trouvent.
En fait. Mais qui a eu cette idée
La ville de Paris.
Et ça fait, alors il y en a, enfin ça fait quelques années maintenant.
Avec ces grands bailleurs sociaux que sont Paris Habitat et
mais vous en avez aussi en région, vous en avez aussi dans d'autres régions de France et ça marche, même si ça fait pas des gros volumes en réalité, mais néanmoins voilà, ça débloque des situations et avec satisfaction pour ces binômes.
Merci beaucoup, merci Isabelle, toujours avec des agents extemporisés. Charlotte, cette fois-ci, on a quoi? On a un coup de blues? Je sais qu'on a un coup de blues.
Alors, on a un petit coup de blues, mais on a un gros coup de cœur.
Ouais, coup de blues, coup de cœur.
C'est l'ADEME qui a proposé, vous avez dû en entendre parler, de mettre en place un malus sur les climatiseurs. Les climatiseurs mobiles et notamment ceux qui rejettent qui sont sur air extérieur et qui rejettent donc de la chaleur à l'extérieur. On se souvient du rapport du GIEC de 2022 qui nous disait qu'on aurait de plus en plus de canicules et puis je crois qu'on en parle maintenant assez aisément de ces îlots de chaleur urbains. Il y a une surchauffe en ville. Là, on a été quand même pas mal épargnés sur Paris sur le début de saison, mais je pense que ça laisse présager d'un mois d'août quand même assez chaud. Enfin, je le sens comme ça. Et en tout cas, je trouve que c'est une belle initiative parce qu'on sait que... Enfin, moi, j'ai entendu énormément de gens autour de moi dire « Ah bah oui, il fait chaud à l'intérieur, c'est difficile. Allez, on va chez Leclerc ou chez Carrefour acheter un climatiseur mobile. » Faut savoir que quand vous en mettez un et que vous mettez le petit tuyau, comme on voit parfois ressortir de la fenêtre ou de la porte, c'est plus 2 degrés, je crois, pour vos voisins.
Ma chère Charlotte, je serais tentée de vous dire que je me mets un peu à la place de personnes qui sont... parfois des personnes âgées, qui n'ont pas les moyens d'avoir une vraie climatisation, que je peux comprendre. Alors,
Je suis d'accord avec vous, mais dès l'instant que ma liberté s'arrête là où celle des autres commence, et si je rejette de la chaleur sur mes voisins, c'est un peu égoïste quand même.
Vous me connaissez, je vous le dis, moi j'aime beaucoup les gens des territoires, et je vous le dis, parfois à Paris on a cette tendance un peu comme ça, un peu bobo de dire, il faudrait se réduire de degrés. Moi je pense que pour la personne âgée, elle ne se pose pas cette question de degrés. Ce qu'elle veut, c'est essayer de vivre mieux. Et qu'elle n'a pas les moyens parce qu'elle va acheter pour à peu près 275 € exactement un petit climatiseur et ça va lui changer la vie. Je peux comprendre ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais on peut tout comprendre, voilà. Sylvain. Mais à un moment, il faut prendre des mesures d'ampleur pour que ça ne finisse pas partout comme ça.
Et comment lui expliquer à cette personne
On va expliquer.
Que j'ai rencontré d'ailleurs et qui dit je suis désolé, mais moi, je n'ai pas les moyens d'avoir un
climatiseur. On va expliquer que son EHPAD va se brancher sur le premier réseau du froid parisien dont j'avais dû parler très probablement dans cette émission. Qui est une climatisation refroidie par l'eau de la Seine.
J'aime bien discuter de ça.
Et ils se sont engagés à ne pas dépasser la température de la Seine à plus de 26 degrés.
Moi, j'ai eu la preuve que tout le monde peut s'y baigner. Et la preuve, c'est Bruno qui me l'a envoyé. Voilà. On a Amélie Oudéa-Castéra, je suis sûr, qui s'est baignée. On a Anne Hidalgo qui s'est baignée dans la Seine. Bientôt, il paraît qu'on va tous pouvoir se baigner dans la Seine.
Non, mais il y a des solutions qui existent. Je vous rappelle que les Romains avaient quand même créé des systèmes dans la construction de leurs immeubles, des systèmes de climatisation sans clim. Donc il y a des moyens.
C'est ce que veut faire le village des athlètes. Donc ils ont dit qu'il n'y a pas de clim, mais il y a quand même des délégations qui vont amener leurs climatiseurs.
Mais il y a un circuit de refroidissement, en fait, puisque c'est chauffé effectivement par aussi de la géothermie. Raccordement, là aussi, un réseau de chaleur urbain, l'hiver. Mais donc voilà, il y a un système de refroidissement naturel. Et puis ça a été conçu, ça a été rappelé tout à l'heure, conception bioclimatique, c'est-à-dire dans le positionnement des bâtiments, dans le traitement aussi, des pièces les plus exposées.
Et puis des volets.
C'est pas ce qu'on fait dans les pays exotiques aussi, justement.
le comité olympique a exigé des volets, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles neufs qui sont, hélas, livrés sans volets.
Je trouve ça scandaleux. On voit des petites fenêtres côté nord et des grandes.
Des volets. C'est très efficace, le volet.
Et on arrive à, finalement, garder une constante température.
Moi, j'avais vu, mais c'était à La Réunion, donc sur la ville de La Possession, c'était un éco-quartier. Et en fait, ils avaient mis la maquette du quartier en soufflerie pour en fait optimiser le positionnement des bâtiments par rapport à la circulation naturelle du vent. Et donc là, ça va, voilà, ça va assez loin sur la conception bioclimatique, mais je pense que de plus en plus, nous, on va travailler comme ça.
C'est très clair.
Déjà, la conception de bâtiments traversants, d'appartements traversants, c'est plus toujours le cas. Et quand vous avez un appartement traversant, bah vous faites un courant d'air, déjà, c'est une forme de rafraîchissement.
Merci, qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Alors,
je suis désolée.
Qu'est-ce qu'on a ensuite?
Je vais vous embêter, voilà, là. Qu'est-ce qu'on a embêté.
On a un coup de cœur, un coup de blues.
Et j'ai un coup de blues, c'est un sujet qui est toujours un peu délicat à traiter, mais je voulais quand même...
Je sais.
En fait, je suis très sensible à ça, vous le savez, Sylvain. On a reçu dans cette émission Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre. C'est des sujets qui me touchent énormément. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de voir le biopic sur Canal+ sur l'Abbé Pierre. J'ai découvert des choses. C'est vrai que ce scandale-là qui est sorti m'a particulièrement
touché.
Touché parce que je pense qu'on est dans une période où on a besoin d'espoir et pour le coup ça vient ternir un petit peu l'image de certes quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires mais qui du coup est un petit peu terni par des comportements qui sont moins jolis.
Voilà. Mais il faut admirer quand même la réaction d'Emmaüs qui n'a pas mis le dossier sous le tapis, qui a mandaté un bureau.
C'est d'ailleurs eux
qui ont communiqué.
L'a dit à la télé hier soir. Mmh.
Je trouve que là, ils ont quand même une attitude qui n'est pas dans le déni.
Oui, c'est eux qui ont commandé le rapport, en fait.
C'est eux qui ont commandé le rapport, absolument.
Mais c'est triste. C'est triste, quand même.
Alors, on ne va pas faire de politique. C'est inqualifiable, bien évidemment, si ces faits sont exacts. Il faut quand même... à une enquête en cours, si c'est en exact. Mais faut-il pour autant, bien évidemment, brûler une icône et finalement enlever tout ce qu'il y a eu? Ça va être un débat, puisque c'est vraiment un débat de société. Je voudrais juste citer une phrase du Talmud qui dit la chose suivante, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un commentaire de Maïmonide. Vous savez, Maïmonide, au 11e siècle, qui était un érudit, qui disait « Le quantum d'un homme juste, c'est quelqu'un qui a une majorité relative de bonnes actions. » C'est-à-dire 51 sur 100. Donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est un homme bon ou une femme bonne dans sa vie, dans ses actions? Je pense que tous les éléments, je veux dire presque philosophiques, de relation à la société font que ce côté réactif, très réactif, qui brûle finalement nos icônes, parfois, à juste titre d'ailleurs, où il y a aujourd'hui une espèce de transparence absolue. Est-il... tout ça, c'est des questions qui sont assez lourdes, mais je comprends le coup de cœur. Vous m'en aviez parlé, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'avoir participé à ça. Voilà, très intéressant pour cette revue. Maintenant, on va passer au débat avec Anne-Sophie Graff, présidente de CDC Habitat, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est tout de suite après.
Le grand jury de la presse immobilière. Le grand sujet.
Si on devait reprendre, ma chère Anne-Sophie Graff, votre track record, c'est ça en anglais, École des Mines de Paris, début de votre carrière dans le secteur bancaire, vous avez un parcours sans faute puisque vous avez commencé à la direction de la maîtrise d'ouvrage de l'OPIEVIA, vous en avez ensuite assuré la direction générale jusqu'en 2006. De 2007 à 2011, vous avez présidé le directoire de Defidis, filiale du groupe SNI, désormais CDC Habitat, dont vous intégrez le comité exécutif, puis le directoire en 2010. Ensuite, en 2011, vous devenez directrice des retraites et de la solidarité du groupe Caisse des dépôts et membre du comité de direction de la Caisse des dépôts. Enfin, en 2017, vous occupez le poste de directrice générale du groupe 3F et en 2020, vous êtes présidente du directoire de CDC Habitat. Ça s'appelle un très beau parcours.
Oui, avec un fil conducteur important, voilà, qui a été celui du logement et de l'intérêt général, puisque quand j'étais à la Caisse des dépôts, je gérais des régimes de retraite et on avait mis en place aussi le compte personnel de formation, donc gérer des sujets importants et intéressants dans la vie aussi des Français. Donc voilà, enfin des sujets sociétaux aussi, voilà, que, que j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir traiter au long de ce parcours, mais avec quand même le fil conducteur principal et celui de l'habitat et du logement, quand et du logement social, notamment.
Quand on pose la question aux différents journalistes qui sont ici présents, et j'ai eu l'occasion et le plaisir de vous interviewer à plusieurs reprises, vous avez cette réputation, on n'est pas là, bien évidemment, pour dire que vous êtes une femme extraordinaire, mais simplement pour rappeler une chose, Anne-Sophie Graff, c'est que vous avez une réelle compétence technique, structurelle du logement, une vraie vision extrêmement intéressante. On n'est pas forcément toujours d'accord avec vous sur certaines orientations, mais en tout cas, il est dans un monde chahuté comme le nôtre, extrêmement intéressant que vous puissiez présider actuellement aux destinées de CDC Habitat, surtout quand on voit comment le marché se comporte. Et si je devais vous poser cette question, Anne-Sophie, vous qui connaissez bien le métier depuis très longtemps maintenant, si je vous demandais de prendre une photographie de la situation actuelle du logement, est-ce qu'elle n'est que politique ? Est-ce que le destin du logement des Français, de la première dépense contrainte des foyers, des difficultés parfois désespérantes des parents pour leurs enfants et pour leurs études, est-ce qu'elle n'est que politique ? Et qu'est-ce qu'elle, voilà, en préambule, quel sentiment vous avez sur ce marché dont on n'arrive toujours pas à produire suffisamment de logements en France, et ça depuis les années 80 ?
Alors, je pense que très certainement, dans ce jury, vous avez dû évoquer à plusieurs reprises les raisons de cette crise, mais si je le fais de manière extrêmement synthétique, si vous voulez. Crise sanitaire, d'abord, dont il faut se souvenir que ça avait quand même été un coup d'arrêt hein, sur les chantiers, puisque nous, on avait fait un plan de relance, je dirais, à l'époque, et surtout a eu pour conséquence que chaque Français s'interroge davantage en fait, sur son logement et sur la qualité de son logement. Après, vous avez eu effectivement la guerre en Ukraine, crise de l'énergie, augmentation du coût des matériaux, voire même pénurie, hein, je dirais, à un moment de matériaux. Donc, augmentation, je dirais, des coûts de revient, assez importants. Et tout ceci, quand même, dans un contexte où les taux étaient encore assez bas. Ce qui veut dire qu'on a vu aussi des augmentations de foncier, du coût du foncier, je dirais, assez conséquentes. Et puis, il faudrait passer beaucoup plus de temps hein, sur chacun de ces moments. Et puis arrive effectivement, compte tenu du contexte économique hein, international, cette augmentation des taux qui a fait effectivement que panne sur le marché de l'accession privée. Voilà. Panne aussi sur le marché des investisseurs sur le résidentiel, qui ont arrêté à la mi-2022, d'investir également sur le résidentiel. Voilà. Donc, il y a une conjonction de facteurs, effectivement, qui a fait qu'on est arrivé à un blocage, total, hein, du marché, avec des niveaux de production extrêmement bas, puisque à fin mai 2024, si on regarde sur un an, on est à peu près à un peu plus de 350 000 autorisations de construction, ça veut dire en gros permis de construire. Hein. Donc une diminution par rapport à l'année dernière de l'ordre de 15% encore. Mais nous, on préfère regarder souvent les mises en chantier. Parce que finalement, c'est ça qui est important. Parce que c'est ça qui fait que les logements vont sortir réellement. Et on a toujours un écart. Hein. On voit les deux courbes sont parallèles, mais ne se rattrapent jamais. Et aujourd'hui, sur les mises en chantier de logements, donc sur un an glissant à fin mai, on était à un peu plus de 280 000 logements mis en chantier, ce qui est le plus bas niveau depuis facilement une vingtaine d'années. Voilà. Mais tout ceci est quand même la conséquence de facteurs, exogènes aussi. Hein,
Facteurs exogènes, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi structurellement, parce que vous avez raison, mais si on comparait, par exemple, on comparait en 1982, mise en chantier, permis de construire, 1982, soit plus de 40 ans en arrière, on se rend compte que démographie constante, on a quasiment le même nombre de mises en chantier et d'autorisation d'urbanisme. Il y a un souci quelque part. Est-ce que vous pensez que structurellement, on a un pays qui n'arrive pas à développer une politique, ou peut-être que la martingale, c'est peut-être l'idée d'une planification du logement qui pourrait être une idée chère à Isabelle, par exemple. Qu'est-ce qui fait que structurellement, depuis plus de 40 ans, on n'arrive pas à trouver la...
Vous avez eu des années de, fortes de construction. Enfin, on n'est pas resté étal. Là, on est sur un effondrement. Moi, je dirais oui, un peu... peu près depuis la mi-2022. Enfin, c'est l'année 2022 où ça s'est vraiment retourné. Ça avait commencé à baisser, hein, j'irais. Mais vous avez eu des années entre 2015, 2020, enfin, vous avez des années de construction.
Fastueuse,
des niveaux tout à fait satisfaisants, je dirais, de construction. Donc, pourquoi aujourd'hui, effectivement, tout le monde s'inquiète de cette situation du logement, puisque ça a été rappelé. Hein. On a une tension, effectivement, sur l'offre et la demande. Donc, l'offre, hein, on l'a vu tout à l'heure, mais là, moi, je parle plutôt de l'accession privée, là, à ce stade. La demande, c'était sur l'accession privée, c'était la question des taux d'intérêt. Hein, donc, effectivement, perte de pouvoir d'achat immobilier avec l'augmentation des taux d'intérêt. Alors, c'est vrai que ça commence à aller mieux et que là, les chiffres sur le crédit commencent à reprendre un petit peu de couleur. Donc,
très timide. Hein,
Oui, mais bon, ça reprend toujours un peu timidement. Il vaut mieux que ça reprenne que pas du tout. Et vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a une tension aussi sur le marché locatif très forte. Hein, nous, on le voit dans nos taux de rotation. Enfin, regarde-nous nos taux de rotation. Nous, sur le logement social, aujourd'hui, on est à un peu plus de 6,5%, ce qui est extrêmement faible. C'est un taux de rotation qu'on n'a pas connu depuis très longtemps. Un point de moins par rapport à l'année dernière, hein, déjà. Dans les années 90, c'était 12,5% à peu près, hein, les taux de rotation sur le
social. Ah oui, quand même.
Ah oui. Donc on est
divisé par deux, quoi.
Divisé par deux. Et sur, comme vous savez, on est un acteur aussi du locatif intermédiaire. On y reviendra aussi peut-être. Et là, donc on est sur des taux de rotation. On est plutôt à 17-20% de taux de rotation. Mais on est typiquement aussi sur des ménages dont, quand ils sont dans le logement intermédiaire, leur souhait, c'est de partir vers l'accession. Et aujourd'hui, ils ne sortent plus. Donc on a aussi des taux de rotation qui baissent, dans ce locatif intermédiaire, qui est un peu le logement des classes moyennes, qui font un parcours résidentiel, normalement qui reste 5-7 ans dans ce logement intermédiaire, et qui après souhaitent en général se tourner vers l'accession. Donc on a effectivement, on a un marché aujourd'hui complètement grippé. Alors souvent, ce qui est, je dirais donc ça a été un cumul, on va dire, de facteurs, sans qu'il y ait effectivement de mesures, je dirais, prises en face de cette dégradation, on dirait, progressive des différents segments de marché. Parce que moi, je suis toujours très attachée à dire c'est une chaîne, le logement. Donc, si l'accession privée ne fonctionne pas bien, le social ne fonctionne pas bien. Si le social ne fonctionne pas bien, l'accession privée ne fonctionne pas bien. C'est vraiment,
construction, bien sûr, métier.
Même si nous, et comme vous le savez, on a été amené à jouer un rôle contracyclique, je dirais, en 2023. Hein, donc, on a fait un plan de soutien.
Vous avez été une bouée de sauvetage absolument nécessaire.
Donc on a un plan de soutien, donc en disant promoteur, on est prêt à acheter un peu plus de 17 000 logements. Mais on l'avait fait aussi pour faire un plan de soutien à la filière du bâtiment. C'est-à-dire que dans ce plan de soutien, on n'est pas venu acheter des codes programmes. On s'est positionné pour que ça permette à des chantiers de démarrer. Voilà. Et faire vraiment à la fin des logements supplémentaires. Et venir aussi en soutien, je dirais, à la filière.
Parce qu'on en était arrivé là. On en était arrivé là, à ce que les chantiers ne démarraient pas, ne pouvaient pas démarrer.
Mais c'est malheureusement encore vrai là sur ce premier semestre 2024, hein, qui est presque plus compliqué encore que l'année 2023.
C'est très clair. Bruno Meniamina.
Dans la liste des facteurs bloquants, on va dire, vous ne parlez pas de la politique de zéro artificialisation nette. Ni des normes environnementales et aussi des changements de fiscalité pour les bailleurs. Est-ce que ce sont des choses qu'il ne faut pas tenir compte ou qui n'ont pas eu d'incidence sur ce blocage ?
Alors, c'est vrai qu'on est obligé d'intégrer aujourd'hui dans nos façons de produire, du logement demain ou façons de produire la ville de demain, on est obligé d'intégrer une partie de transformation. Donc nous, on a, à partir de 2021-2022, on s'est dit, une partie de notre production va se faire par de la reconversion de friches, de la transformation de bureaux en logement, parce qu'effectivement, il faut tenir compte du zéro artificialisation nette. Donc comment on continue à produire en artificialisant moins les sols. Aujourd'hui, ça amène une autre façon de pouvoir construire, mais nous, on considère pas à ce stade que c'est ça qui a fait aujourd'hui, hein, peut-être que dans 25 ans, ça sera un peu différent, et qui a donné ce recul de la production. Après, vous avez aussi d'autres considérations. Hein. Si je prends les bailleurs sociaux, Vous prenez l'augmentation du taux du livret A, qui a été quand même très rapide, hein, de 0,5 à 3%. Et encore, il a été capé, hein, le taux du livret A. Je vais vous donner un chiffre, nous, sur notre groupe. Un point de taux du livret A, c'est 75 millions d'euros de charges financières en plus. Donc, quels que soient les bailleurs, ça a obéré aussi les capacités à faire. Ah oui. Les taux d'emprunt, c'est... voilà, pour construire, on emprunte long, hein, comme vous savez, auprès de la Caisse des dépôts. Mais donc, pour nous, si vous voulez, à ce jour, la réglementation environnementale... Aujourd'hui, enfin les promoteurs l'ont, on va dire, j'ai pas parlé que des promoteurs, mais les constructeurs, les opérateurs comme nous ou comme les promoteurs, on l'a tous intégré. Nous, on est quand même convaincus de toute façon que c'est le sens de l'histoire. Alors après, effectivement, c'est un peu voilà quelles peuvent être les échéances, la capacité à absorber, à transformer. C'est sûr que ça génère un coût supplémentaire dans les opérations. Et puis bien souvent, les filières ne sont pas prêtes aussi. Vous parliez tout à l'heure des éco-matériaux, par exemple. Il y a beaucoup de filières qui ne sont pas prêtes. Là, alors maintenant, on parle aussi beaucoup des pompes à chaleur, par exemple, sur l'énergie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais assez récemment, là, il y a une société qui fait des pompes à chaleur qui a annoncé un PSE. Parce que, je dirais, diminution, finalement, les volumes ne sont pas là. Mmh. Alors, parce qu'effectivement, les volumes de construction ne sont pas là non plus. Donc, c'est vrai que moi, je ne mets pas, effectivement, à ce stade, comme frein, le ZAN. Après, par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on dit, nous on dit, bon, une partie de notre production va se faire demain par transformation. C'est incontournable. Bon. La seule chose, c'est que c'est des projets qui sont plus longs à sortir, beaucoup plus compliqués. Parce qu'il faut faire souvent, vous positionnez sur une friche. Bon, donc déjà, il faut quand même sortir l'argent tout de suite pour le propriétaire. Vous allez porter le foncier pendant sa transformation, les pollutions, etc. Bien souvent, il y a des modifications à faire des plans locaux de l'urbanisme, parce que c'était une activité industrielle et non pas du résidentiel. Donc évidemment, on y va si on a une collectivité qui
volontaire, porte, bien sûr, bien sûr.
Ce type de projet. Donc on va mettre, si vous voulez, facilement 4 à 5 ans de plus pour, j'irai avoir, et c'est là où on va revenir peut-être au village des athlètes, où si on arrivait voilà, à comprimer un peu ces délais, les études un peu obligatoires qu'on a à faire, ça permettrait de regagner aussi un peu une économie de projet. Mmh. Puisque au plus on fait du portage long, au plus ça coûte cher. Mmh. Donc c'est plutôt par ce biais-là que l'économie de la transformation, en fait, fait que c'est plus cher. Voilà. Mais à ce jour, de dire c'est vraiment ça qui a eu un impact sur la réduction de la production de logements, je ne pense pas. Je pense que c'est beaucoup plus les conditions économiques, en fait, générales du secteur avec... aussi l'augmentation des taux d'intérêt, hein, on y revient. Et à un moment donné où, finalement, tout a augmenté, c'est-à-dire le foncier, aujourd'hui, on est sur des niveaux élevés et n'a pas encore baissé.
Un foncier décorrélé de la réalité, Anne-Sophie Grave.
Oui, mais pour l'instant...
Ça doit vous rendre folle de voir des promoteurs, bonjour 40, au revoir 60, qui achètent à des prix...
Ça, c'est fini.
Alors, je suis d'accord avec toi, Isabelle.
Récemment. Mais l'ajustement est long. L'ajustement est long parce que...
Vous l'aviez constaté, ça aussi. Vous êtes une professionnelle de l'immobilier. Vous avez dit, à un moment donné, arrêtez-vous, les gars, parce que ça peut pas fonctionner longtemps. Et on peut, alors, encore une fois, économiquement, on peut le comprendre, puisque la matière première du promoteur, c'est quoi? C'est le foncier.
Oui. Alors, c'est une question, d'ailleurs, qui peut se poser pour demain. Parce qu'avec le ZAN...
Certainement.
Voilà. Le foncier, donc, qui aujourd'hui reste quand même à des niveaux élevés, puisque l'ajustement ne s'est pas fait encore. Hein. Et peut-être que ça va commencer à se faire en 2024. Là,
mais c'est irréversible, cet ajustement.
Avec des abandons de projets, et donc à un moment donné, le propriétaire foncier, s'il a besoin de vendre, on aura peut-être une petite baisse du foncier. Mais à contrario, voilà, avec la question de l'artificialisation des sols, on voit bien que la donnée foncière. Devient un sujet extrêmement important. Je vais vous dire, par exemple, ce que font la plupart des bailleurs, mais on l'avait fait un peu de manière pragmatique. Nous-mêmes, on a du foncier, donc on se dit on peut construire sur nos propres fonciers. Bon. On l'a tous fait un peu. Mais là, nous, on a commencé à faire une démarche systématique en se disant, mais en plus maintenant, voilà, avec la data, c'est un petit peu plus facile d'aller rapidement sur ce genre de sujet. Mais se dire aussi, ça devient bien rare avec le ZAN. Et donc, il faut exploiter davantage toutes les possibilités qui sont offertes à nous.
Charlotte.
Oui, bah, du coup, ça me fait du bien, moi, d'entendre ce type de discours. Hein. Je trouve que voilà, c'est très français de râler dès qu'il y a une nouvelle contrainte. Pour le coup, là, c'est une belle contrainte qui permettra aux gens de vivre mieux en France, je pense, et d'entendre
une belle contrainte. Vous allez vous faire beaucoup d'amis.
Non, mais d'entendre des discours qui très simplement finalement disent bah on l'a intégré. C'est agréable. Par contre, ces 4 à 5 ans dont vous parliez de plus sur la transformation, est-ce que vous pensez que, parce que là, on est en période de rodage un peu sur le début du process, est-ce que, effectivement, ça, c'est pas des délais qui, avec le temps, on va très certainement réussir à les réduire?
Alors, il y avait, parce que bon, on a une actualité un peu particulière en ce moment, on va dire, politique, bon. Mais donc, il y a des textes qui se sont arrêtés. Et il y avait une proposition loi d'un parlementaire, Monsieur Daubier, qui portait sur, à l'origine sur la transformation de bureaux logement, mais qui avait été élargie à tout ce qui était reconversion. Et pour pouvoir justement aller plus vite sur les modifications de PLU, parce que si on gagne un an sur une opération, c'est majeur, même dans l'équilibre économique de l'opération. Cette proposition, alors moi c'est aussi parce qu'il faut donner un peu d'espoir, et je me dis, voilà, sur des sujets, le logement quand même un sujet certes très politique, mais aussi souvent technique. Eh bien, cette proposition de loi, elle avait été votée à l'unanimité côté Assemblée, à l'unanimité côté Sénat. Il ne restait plus qu'à faire la CMP. Donc, j'espère qu'elle va se... repartir. Parce que, bien typiquement, sûr. En fait, c'était de se dire, bah, voilà, oui, il va falloir construire différemment, sortir du logement différemment, et donc commençons à voir comment on peut... Voilà. Donc, c'était plutôt qu'il y ait une sorte de dérogation, en fait, au PLU, à partir du moment où on faisait de la transformation.
Et je pense que l'effet positif, le cercle vertueux de tout ça à terme, ce sera que comme le foncier va devenir un bien plus rare, qui va retrouver un peu ses lettres de noblesse, on construira différemment.
Et alors, peut-être pour vous donner aussi un exemple, parce que moi, ce qui me frappe, parce que nous, maintenant, on en a plusieurs, en magasin, si je puis dire, qu'on a réalisé. Mais bien souvent, finalement, les approches sont un peu les mêmes. C'est-à-dire que non seulement on reconvertit, je vais prendre un exemple, on a une reconversion d'une briqueterie à Lambersart, donc à côté de Lille. Et ça va faire un quartier de 500 logements avec une mixité parfaite. Bon. Mais la réalité, c'est que sur ce genre de projet, en plus, on renature. C'est-à-dire on renature 50% des surfaces.
Oui, c'est énorme.
Et on amène des mobilités douces, etc. C'est-à-dire que la conception, hein, vous parliez de comment on va construire ces quartiers de demain, c'est vraiment aussi sur ces projets-là. Du coup, on va très loin. Et bien évidemment, mode de chauffage, recyclage des eaux. Parce que la ressource en eau, c'est un gros enjeu pour nous.
Vous replantez de la ville. Ah oui. Et vous réinvitez la nature. C'est-à-dire que vous allez bien plus largement.
On remet de la pleine terre. Hein,
vous travaillez sur de la mobilité,
c'est
vous travaillez sur l'énergie.
Dans les PLU, d'ailleurs.
Ouais. De plus en plus.
Sur le bien-être. Voilà. Vous, est-ce que ça qualifie pas, à l'instar de ce que disait Charlotte, finalement, c'est cette nouvelle génération d'opérateurs à avoir une vision beaucoup plus globale des morceaux de ville ou des. Moi, j'aime bien l'idée de planter de la ville, justement dans la philosophie, et que finalement, ça met un terme dans une certaine mesure, et pourquoi pas, c'est l'évolution intellectuelle, structurelle, technique, des métiers, de la promotion qu'on connaissait peut-être d'une certaine façon, mais dont les métiers aujourd'hui doivent nécessairement évoluer.
C'est déjà un peu le cas avec les opérations d'intérêt national. Hein, je prends l'exemple de la vallée du Var à Nice.
Ou l'OIN de Sénart, par exemple, aussi.
La plaine du Var, pardon.
Non, mais là, ces dernières années, il y a eu effectivement un vrai mouvement là-dessus, mais effectivement qui s'accélère, hein, d'une certaine façon, sur des quartiers de toute taille. Hein, ça peut être sans logement, ça peut être sans logement.
Oui, bien sûr.
Mais avec, moi, quand je regarde un peu les grandes constantes que l'on a, c'est vertueux, évidemment, d'un point de vue éco-construction, vertueux d'un point de vue renaturation, d'un point de vue énergie, d'un point de vue recyclage aussi, hein, économie circulaire, réemploi des matériaux, mais aussi recyclage des eaux, bien sûr les eaux pluviales. Et j'ai vu avec bonheur qu'il y avait le décret sur les eaux grises qui était sorti aujourd'hui.
Absolument.
Donc là aussi, ça va nous faire, je dirais, progresser.
Isabelle Rey. Oui, je voulais dire deux choses. Moi, je pense que, bien sûr, il y a les taux d'intérêt qui ont mis un coup d'arrêt à l'acquisition, mais plus profondément, on a quand même un problème d'abordabilité, si j'ose dire, c'est-à-dire que les prix de l'immobilier sont décorrélés des revenus et donc les gens ne peuvent plus acheter, quels que soient les taux d'intérêt. Donc ça, c'est quand même un problème de fond qui est éminemment politique. Et je rebondissais à ce que vous disiez sur le locatif. J'avais l'autre jour une dame qui gère 600 logements à Annecy. Elle me dit « j'ai plus rien à louer, les étudiants ne donnent plus congé ». Mais elle me dit aussi « le marché locatif n'est plus alimenté par les investisseurs qui n'ont plus les dispositions fiscales ».
Et qui jouent le rôle d'ailleurs de coussin social, entre guillemets, si
oui,
je peux permettre.
Oui, le parc locatif privé a un rôle d'accueil qui est très important. Et donc là, c'est quand même très, très politique. Donc là, politiquement, on est à l'arrêt, mais, et vous le savez, le logement, c'est quand même beaucoup les élus, les collectivités locales. Elles sont en train de mettre leur PLU, leur plan local d'urbanisme, en conformité avec les nouvelles lois climat et résilience, etc. Donc elles exigent... Et puis, il y a aussi Renaud Père, qui est le vice-président de la métropole de Lyon, parlait l'autre jour à une conférence de révolution silencieuse, justement pour faire du logement abordable, des organismes fonciers solidaires, des baux réels solidaires qui permettent de produire du logement beaucoup moins cher, 40 à 50% moins cher par un mécanisme de dissociation du foncier,
du bâti
et aussi d'encadrement des prix de revente, parce que si ça ne sert à rien de dissocier le foncier du bâti si on repart sur des logements qui deviennent trop chers. Donc moi je pense que les collectivités locales sont quand même à l'œuvre. Elles mettent leur PLU en conformité avec les nouvelles règles environnementales. C'est un boulot incroyable, hein, d'ailleurs. Et puis, elles testent des nouvelles choses. Alors, c'est pas à la hauteur des besoins, c'est vrai. On est quand même... Je voyais là l'Alliance pour le logement, c'est-à-dire toutes les organisations professionnelles sur le logement qui disent chaque mois qu'on perd, c'est 10 000 emplois en moins dans la filière bâtiment. C'est leur...
Olivier Salleron a communiqué récemment, c'est le dernier communiqué de presse, sur la destruction de 130 000 emplois dans le monde de la construction.
Elle a 10 000 emplois dans la filière construction. Chaque mois d'inaction coûte plus de 10 000 emplois dans la filière construction.
Ah, mais c'est une catastrophe pour la construction.
C'est vrai que c'est une catastrophe.
Oui, une catastrophe économique, dont mais d'ailleurs le gouvernement,
les
je
élus
précise,
sont là.
Je ne sais pas si vous avez...
Peut-être pour rebondir les élus, effectivement, et c'est très important. Et on a vu sur la fin d'année 2023 un certain nombre de métropoles qui ont aussi pris des dispositions pour faire un plan de soutien au logement.
Oui.
Donc en venant aider aussi par des financements, enfin, des opérations, et là notamment de logement social qui avait du mal à sortir, voilà, donner le petit coup de pouce supplémentaire pour que ça puisse sortir. Et puis après, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les opérateurs que nous sommes réfléchissent aussi à comment arriver à sortir des opérations moins chères. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'industrialisation de l'acte de construire, de construction hors site. Qui étaient des sujets avaient déjà été évoqués il y a 10 ans.
Mais est-ce que ça fait baisser les prix, ça? Est-ce qu'on peut arriver, en modélisant,
parce qu'il faut des volumes, toujours pareil.
Et si on a...
Mais je pense que voilà, tous les acteurs ont ce droit de le faire, parce qu'il faut trouver des solutions, et sans effectivement renier ou revenir en arrière sur les exigences environnementales. Mais normalement, il faut quand même qu'on trouve des solutions pour construire moins cher. Après, il y a aussi un sujet, c'est finalement, quelle est la demande, notamment en termes de typologie de logement, parce que là, quelquefois, on peut avoir des débats aussi avec les élus, parce qu'on voit bien que la demande aujourd'hui, elle est sur les petits logements du T2, du T2, T3.
Et les études sont faites bien en amont.
Oui.
Et les tendances changent, en fait. La demande change dans les comportements, les besoins. Et on le voit bien aujourd'hui. Ouais.
Mais c'est pas pris en considération encore suffisamment, en fait, dans les programmations ou dans la demande qu'on peut avoir ou dans les programmes qu'on peut voir arriver quand on achète en VEFA. Alors que moi, j'avais regardé avant de venir là les attributions de logement qu'on avait fait sur CDS Habitat Social en 2023 et entre 65% plus de 65% c'était du T2 T3 quoi.
Mais est-ce que c'est pas une histoire de coût?
Aussi.
Le fait que les gens réclament des petits logements, c'est peut-être parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas se payer plus.
Alors là, je ne parlais pas en superficie, mais en typologie, parce qu'on est beaucoup plus quand même sur des ménages, une personne, des petites compositions familiales. Okay. Là, c'était en relation avec la demande, et non pas le prix.
Et puis la configuration sociale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la décohabitation, par exemple, a été un phénomène qui a fait exploser la demande de logement. Pas forcément plus de personnes, mais plus de logements.
C'est ce que le SDES, qui est le service statistique du ministère du Logement, a sorti hier, je crois, une étude disant qu'à l'horizon 2050, il y aurait 3,5 millions de ménages de plus et que parmi ces ménages de plus, il y en a 80%, c'est des ménages de une personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il leur faut des studios et des deux pièces, parce que c'est des conjoints séparés, ils ont besoin de place pour accueillir leurs enfants, des gens de plus de 60 ans, ils ont besoin aussi de place pour... Donc il ne faut pas tomber, je pense, dans le tout petite typologie, quoi.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien quand même qu'il y a
une évolution,
puisque dans le parc des bailleurs sociaux, qui ont été quand même massivement construits, je dirais, dans les années 70-80, on a beaucoup, nous, plutôt des logements familiaux, des T4, des T5, on a assez peu de petits logements. Et là, on voit quand même, je dirais, un mouvement plutôt inverse, mais après, je suis d'accord avec vous, il faut avoir une offre, évidemment, équilibrée pour... la diversité des besoins.
Nous allons bientôt arriver au terme de l'émission, mais il y a un sujet sur lequel je voulais vous interveniez, c'est le sujet justement de l'énergie et de la rénovation énergétique. Vous avez été précurseur, Anne-Sophie Grabe, dans le pilotage finalement de la rénovation énergétique, à l'heure où effectivement nous avons une cartographie politique qui est en train d'être rebattue. Je rappelle juste que à l'issue du deuxième tour, le Front populaire est arrivé avec 193 sièges, la coalition présidentielle avec 165 sièges, autres sièges 21, 55 sièges pour les Républicains et divers droites, et le Rassemblement national et ses alliés pour 143 sièges. Donc on est clairement dans un... on entre peut-être dans un blocage institutionnel qui ne va pas être favorable au logement. Je voudrais juste prendre deux témoignages qui ont été rapportés par des porte-paroles des différents partis. D'abord le Rassemblement national qui était pour revoir complètement le calendrier de la rénovation énergétique, voire même le suspendre, pour remettre sur le marché, je cite, des logements qui ne seraient plus louables à partir du 1er janvier 2025. En exemple. Et enfin, le Front populaire qui dit, à l'instar, effectivement, qu'il fallait recapitaliser ou réélargir les fonds de MaPrimeRénov' pour pouvoir massifier la rénovation de 300 000 logements. Et là, la coalition présidentielle serait plutôt d'accord. Dans quel angle, vous qui avez été plutôt précurseur avant même les textes qui vous imposent la rénovation énergétique, vous avez déjà pris ce sujet en main. Toutes ces incertitudes politiques ne vous rassurent pas plus que ça pour la transformation ? Est-ce que c'est pas bloquant dans le programme que vous avez déjà initié à la Caisse des dépôts ?
Alors peut-être de rappeler effectivement déjà où on se situe sur le parc existant. Donc nous on a moins de 1% de logements en FEG, donc ils seront largement traités, je dirais, avant les échéances 2025-2028.
Oui, il n'y a pas de débat sur le sujet.
7% en étiquette E, qui seront traités aussi largement avant 2034. Juste rappeler aussi pourquoi c'est important, parce que nous on a toujours considéré qu'on faisait ça à la fois pour nos locataires et pour la planète. Donc du gagnant-gagnant. Pourquoi ? Parce que, et notamment quand on a eu la crise énergétique, un locataire qui était dans un logement en C ou en B par rapport à un locataire qui était en F ou G, c'est quand même une différence de l'ordre de 15 à 30% de la charge énergie. Là, je parle, on va dire, en kilowattheure non pas effectivement en euros, parce que par ailleurs, le coût avait augmenté. Donc c'est quand même fondamental en termes de pouvoir d'achat. Et en fait, donc moi j'ai pas fait de politique... quels que soient les partis, je pense quand même tout le monde est attaché à cette question du pouvoir d'achat.
C'est très clair. Donc,
sans compter le confort que vous évoquez, hiver et été, et qui est aussi très important. Donc nous, effectivement, on va poursuivre en tout cas, gérer cette trajectoire. Par contre, aujourd'hui, on a un autre enjeu, puisque donc on a fait nos réhabilitations thermiques. Donc ça on l'a fait. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux DPE, en fait, vous avez donc la consommation énergétique du logement, mais vous avez aussi son étiquette en tant qu'émission de gaz à effet de serre. Et on regarde la plus mauvaise note des deux. Notre patrimoine est chauffé à 60% gaz, comme la plupart des bailleurs et des bailleurs sociaux, énergie fossile. Donc effectivement, nous sommes en train de revisiter complètement l'intégralité de, on appelait ça notre plan bâtiment énergie maintenant, pour dire bon, finalement on a, enfin, répétition thermique, on a encore des investissements à faire, mais voilà, c'est bien avancé. Mais comment on accélère maintenant sur le recours aux énergies renouvelables? Première priorité, le raccordement des réseaux de chaleur urbains, parce qu'aujourd'hui, c'est, voilà, il y en a quand même de nombreux, vertueux, et donc ça, c'est ce qu'il y a de plus rapide à faire. Et puis après, bien, selon les endroits, ça peut être de la géothermie, ça peut être du photovoltaïque, voilà, ça, ça peut être différentes formes d'énergie. Mais pour nous, c'est le gros enjeu, en fait, de la période à venir. Aussi, dans les achats de gaz, on a commencé à avoir une partie en biogaz. Donc là, on vient de passer aussi un marché pour avoir un peu de biogaz.
Ce qu'on appelle le gaz vert. C'est
le gaz vert, voilà, exactement. Donc voilà, donc c'est cette palette de solutions qu'il faut regarder. Et après, on a encore une autre conviction qui est, puisque donc là, on parle d'atténuation, hein, en fait, d'une certaine façon, et qui est l'adaptation au changement climatique et la résilience de nos bâtiments. Tout à l'heure, vous évoquiez le GIEC. Donc, dans les scénarios du GIEC et, je dirais, les bâtiments qui sont les plus exposés, en fait, à des risques d'événements climatiques majeurs, est-ce qu'ils seront résilients demain quand il y aura des grosses tempêtes, des inondations,
les calculs.
Voilà. Donc, on a mis au point une méthode, un diagnostic de performance résilience. Et maintenant, systématiquement, dans nos réhabilitations, on embarque cela pour pouvoir faire les travaux, éventuellement, de confortement de structure, enfin, selon les endroits. En tout cas, s'interroger et en le faisant prioritairement en prenant les cartographies du GIEC. Parce que ça, on pense que c'est un enjeu
ce diagnostic de performance résilience peut même inspirer l'ensemble des acteurs dans sa modélisation.
Voilà, ben, on mettra à disposition, je pense, voilà, cette méthode pour parce qu'on pense, nous, que c'est
intéressant.
On est fermement engagés sur cette stratégie nationale bas carbone, sur la trajectoire 1,5 degré du réchauffement climatique. Voilà, on pense que c'est important de le faire pour le confort des occupants, mais aussi pour leur porte-monnaie. Quoi.
Oui, rapidement.
Oui, bah, je rebondis sur ce que vous disiez, ce que je disais sur les climatiseurs tout à l'heure, c'est qu'en gros, ils sont aussi très énergivores. Donc la personne qui va l'acheter pour la modique somme de 200 et quelques euros, finalement, va avoir un surcoût parce que c'est hyper consommateur et ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc en fait, c'est un triple cercle vicieux. C'est-à-dire que ce qui est terrible, je trouve, c'est qu'on se retrouve dans des configuration où ce sont les gens qui ont le moins de moyens qui achètent très probablement ce genre de choses pour pallier à ce besoin de fraîcheur et qui vont se retrouver dans un cercle vicieux de financier.
Ça marche aussi pour le chauffage.
Mais oui, complètement. Mais,
quand ça vous marche voyez absolument que ce sont... pour le chauffage. Absolument.
Voilà. Donc, c'est triste.
Oui, j'ai encore une...
Oui.
Voilà, on a des démarches aussi justement pour lutter contre la précarité énergétique. Oui. Et aller repérer ces situations-là. Et puis faire aussi beaucoup de pédagogie. Voilà, comment on peut gérer son logement en période de grosse chaleur. On avait fait un petit concours interne sur l'innovation sociale. Et la région PACA avait gagné sur une fraîche attitude. Mais c'était de mobiliser, gérer les gardiens pour accompagner sur les éco-gestes. Là-bas, c'est plutôt effectivement la chaleur que le froid l'hiver. Mais il faut pouvoir accompagner.
D'autant plus dans un contexte où je vous rappelle qu'on essaye de garder nos personnes âgées à domicile.
Absolument. Merci à tous. Je vous propose un petit jeu pour terminer notre saison 2024. Vous êtes d'accord?
Oui, on aime jouer.
Ah, vous aimez ça? Voilà, un petit jeu sympathique à la Bernard Pivot, pour lequel on a une pensée émue qui est disparue et qui a bercé. En fait,
j'avais fait sa dictée au collège.
Mais alors je l'ai fait, et c'est surtout, je peux le dire, celui qui m'a donné envie de lire. Et en me donnant envie de lire, il m'a sorti, comme dirait mon grand-père, de ma crasse médiévale. Comme j'aimais beaucoup ce terme. C'est lui qui m'a donné envie de faire des études. Oui, parce qu'à l'époque, j'étais compagnon du devoir, j'étais boulanger. C'est lui qui m'a donné envie de faire des études. Merci à lui. Voilà, je pense souvent à Bernard Pivot. Alors je vous propose un jeu. Spontané, je ne sais pas si je vous l'avais déjà fait celui-là, vous allez chacun vous demander un mot, un adjectif qui qualifie les propos, mais vraiment très spontanément, que nous venons d'échanger. Je vais commencer par Bruno.
Okay. Enrichissant.
Alors, enrichissant, ah, c'est bien ça, ça me plaît beaucoup. Isabelle.
Finalement, relativement optimiste.
Alors, il me faut un seul mot, optimiste ou relativement?
Relativement optimiste.
Ah non, mais,
je, non, non, mais moi, je ne rentre jamais dans les cases.
Alors, on va dire optimiste, voilà. on va dire les choses. C'est vrai qu'optimisme... Merci, Isabelle. Voilà, vive l'été. Optimiste. Charlotte.
Oh, il ne va pas être facile à placer celui-là. Je dirais maternant.
Maternant.
Désolée. Hein,
vous avez toujours des idées extraordinaires. Maternant, voilà. Mais pourquoi pas ? Régis.
Je vais dire espoir.
Espoir. Et nous allons terminer par notre grand témoin.
J'étais entre espoir et solution, donc solution.
Solution.
C'est plus dur de terminer, en fait.
Alors, afin de faire preuve d'optimisme et afin également que ce soit pour nous tous enrichissant, encore faudra-t-il être dans une option plutôt maternant ou maternante, de manière à restaurer des solutions qui puissent donner à toutes et à tous de l'espoir.
Bravo. Oui.
Ce sera... j'adore faire cet exercice-là, parce que j'aime bien qu'on clôture sur une image, parce que finalement, on a un nuage de mots qui qualifie nos propos, Anne-Sophie, enrichissant, optimiste, maternant, espoir, solution. Parce que, bien évidemment, je voudrais juste citer un type formidable, qui est un philosophe, qui est décédé trop tôt exactement, qui avait écrit en 1956 un livre formidable, je vous conseille de le lire, je vais faire de la pub pour lui. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme », et c'est Gunther Anders qui l'a écrit, et qui disait la chose suivante, et on disait de lui qu'il était le philosophe du désespoir, un peu comme Émile Cioran. Dans une certaine mesure. Et Cioran avait une autorité différente, mais Anders était un type remarquable, un élève de Martin Heidegger, voilà, qui avait eu cette école, qui disait la chose suivante. Le pessimisme n'est pas une fonction de l'auto-apitoiement sur son sort, mais plutôt une exhortation à l'action. Et en fait, ce qu'il voulait dire dans cette phrase, c'est que ce n'est pas parce qu'on est pessimiste que l'on est tétanisé par l'inaction, mais qu'au contraire, le pessimisme peut exhorter à l'action, parce qu'en étant pessimiste, on ne fait pas de déni de réalité, ce qui ne nous empêche pas de voir le monde tel qu'il pourrait être plutôt que tel qu'il est. Et je pense que c'est une bonne voilà, idée de réflexion dans un monde comme le nôtre.
Les Français qui sont pessimistes, ils devraient être en plein dans l'action.
Ah ben on est dans l'action.
Voilà, voilà,
c'est rassurant.
C'est voilà, c'est un grand merci, un grand merci, un bel été à notre ami Bruno Monnier-Vinard, journaliste au Point. Merci Bruno, on vous souhaite un très très bel été. Également à Isabelle Rey-Lefebvre, je rappelle le titre de son livre, Halte à la spéculation sur le logement. C'est un vrai succès de librairie. Vous pouvez bien sûr l'acheter et vous pouvez plus simplement taper sur Internet. On le retrouve facilement. Merci Isabelle Rey-Lefebvre. Un immense merci à notre productrice préférée, Charlotte Ekerl. On vous souhaite un très très grand merci. Merci également pour cette saison qui s'est annoncée quand même très sportive.
Et merci à Anne-Sophie d'avoir répondu présente à l'appel.
Et à tous nos invités d'ailleurs qui l'ont fait. Merci à Régis Sébille, toujours aussi fin dans la donnée. On vous retrouve également en septembre pour le nouveau numéro du Grand Jury de la Presse, puisqu'on revient pour une prochaine saison.
Et on vous faire du bien.
Et on vous retrouve avec grand plaisir. Et enfin, un immense merci à vous, Anne-Sophie Grabe. C'est un vrai plaisir. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Parce que vous n'éludez absolument aucune question, c'est rassurant et ça nous donne confiance dans l'avenir pour le logement. Surtout, ne changez rien. Vous êtes président de CDC Habitat, on vous souhaite également un très très bel été. Remerciements également à toutes vos équipes qui ont permis l'organisation de ce plateau. Merci également à la technique, à Théo, Jason et Baptiste qui ont été à la manœuvre, Alexandre, Priscilla et Lorenzo et toutes les équipes de Web Radio Édition, de Radio Imo et de Radio Territoria. On vous retrouve, plein de fougue à la rentrée, mais n'oubliez pas, restez connectés. Bel été à tous.
Le Grand Jury de la Presse Immobilière, une émission en partenariat avec Régus et Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.